Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Un après-midi, avenue Xat, Pierre se promène. Un jeune homme l'accoste. Pardonnez-moi, mais je cherche le numéro 23. Avec tous ces immeubles qui se construisent, les numéros ne sont pas tous été indiqués. Le jeune homme est de taille moyenne, mince, les cheveux blonds qui ondulent. Il a un visage très sympathique, habillé d'un costume noir. Pierre lui dit, je crois que c'est deux maisons plus loin. Vous n'êtes pas de Lyon ? Non, je suis de Grenoble. Mon père tient une fabrique de biscuits secs. Ils vont vers le numéro 23. L'immeuble est à peine fini. Il y a encore des échafaudages. Pierre lui dit, eh bien voilà, vous êtes arrivé. Merci, j'aurais pu trouver le numéro. Car s'il n'était pas encore mis. Pierre lui dit, bon, eh bien, je vais vous laisser. Le jeune homme lui demande, si vous n'avez rien d'autre à faire, vous pourriez peut-être rester avec moi pour m'accompagner voir le propriétaire. C'est la première fois que je loue un appartement et je me sens un peu gêné. Pierre trouve le jeune homme charmant et lui dit, bien si vous voulez. Le jeune homme lui dit, je m'appelle Jean Laurier et moi Pierre Beaumandin. Et ils entrent dans l'allée. Jean lui dit, nous allons demander au concierge à quel étage est ma propriétaire. Ce sent la peinture fraîche. Il voit une porte vitrée, frappe. Un petit homme maigre avec un béret a ouvert la porte.
C'est pourquoi ?
Nous aimerions aller chez Madame Terrier. C'est à quel étage, s'il vous plaît ?
Troisième droite.
Les deux jeunes gens montent jusqu'au troisième étage. Là, Jean va sonner à la porte de droite. Leur a ouvert une dame de taille moyenne, un peu forte, les cheveux châtains courts, d'énormes yeux marrons, le regard antipathique. Elle est habillée d'une robe noire.
Qu'est-ce que c'est ?
Bonjour madame, je suis Jean Laurier, la personne qui aimerait louer votre appartement.
Ah oui, attendez.
Elle prend un trousseau de clés.
C'est l'appartement qui est au-dessus.
Elle regarde Pierre et dit,
j'ai bien dit que c'était que pour une personne seule.
Jean lui dit, monsieur m'accompagne, c'est tout.
Bien, parce que pas de couple, ni chat, ni chien.
Elle a fermé sa porte et il monte jusqu'à l'étage.
Il ouvre la porte de l'appartement.
Entrez.
Si C'est en deux pièces cuisine, salle de bain. Elle montre, c'est clair. Les pièces sont grandes, avec de grandes fenêtres. L'appartement est meublé avec des meubles éclairoclics, mais de goût. La chambre Louis XV, le séjour Louis XVIII et Napoléon III, la cuisine et la salle de bain est équipée aussi. Elle demande. Cela vous convient ? Regarde, Jean regarde Pierre qui sourit. Oui, je prends. Très bien, le loyer est le 5 de chaque mois. Et à l'avance, cela vous va ? Oui, madame. Une fois que le bail a été signé, le premier du mois payé, Jean invite Pierre à boire un verre. Ils sont allés chez un épicier acheter une boîte de vin de Bourgogne et des gâteaux secs du père qui se vendent dans une boîte en carré en métal. Ils se sont assis au salon, l'un en face de l'autre, sur des fauteuils. Tout en buvant et mangeant, ils parlent. Pierre s'est tout de suite senti en confiance avec ce gentil garçon. Il a un regard tellement sympathique et doux. Jean lui dit « Je suis venu à Lyon parce que j'en avais assez de vivre avec mon père. Pour lui, il n'y avait que l'entreprise qui compte. » Pierre lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire, toi ?»« Je veux être peintre sur tissu. » Créer des motifs pour les robes, les doubles rideaux, etc. Alors je me suis inscrit à l'école des beaux-arts et en plus je vais étudier la soierie. Et toi ? Pierre soupire et dit « En ce moment, je ne fais rien, mais j'aimerais écrire des romans. Mais ma famille et moi, ça ne va pas, surtout mon père. » Jean lui dit « C'est comme moi. Mais je m'en suis libéré de tout ça. Mon père me faisait des scènes terribles parce que je ne voulais pas travailler avec lui. Et il me trouvait pas assez viril. Il ne supportait pas me voir avec des tissus. Un jour, il était dans une colère telle qu'il est entré dans ma chambre alors que j'étais avec un ami. Il a pris tous mes tissus, les a jetés dans le jardin et brûlés. Après cela, j'ai décidé de le quitter. Toi, si ça ne va pas avec le tien, quitte-le. » Pierre soupire et lui dit « J'aimerais bien, mais je n'en ai pas les moyens. Travaille. Je ne sais rien faire. » Il regarde sa montre et lui dit « Il faut que je te quitte. » Il se fait tard. Ils se lèvent tous deux et vont vers la sortie. Avant de le quitter, Jean lui dit « Nous reverrons. Oui, bien sûr. Tu peux venir me voir vers 18h. Je n'y manquerai pas. » Jean sourit et lui donne un baiser sur la joue. Jean ouvre les épaules et lui dit « Nous sommes amis maintenant. » Pierre, surpris, le quitte. Sur le chemin qui le ramène chez ses parents, il pense à Jean. Il le trouve sympathique et gentil. Il a de jolis yeux. Cette pensée le fait sourire et se trouve bête. Pendant une semaine, il pense sans arrêt à Jean, en se disant qu'il a de la chance de vivre libre. La nuit, il voit sans arrêt son visage. Cela lui tient compagnie toute la journée. Une semaine après sa visite, il décide, un peu intimidé, d'aller lui rendre visite. Il y va, mais en se disant que peut-être il avait dit ça comme ça. Va sonner à sa porte. Lui a ouvert Jean, tout sourire, habillé en kimono noir. « Bonjour, je te dérange pas ?»« Non, pas du tout, ça fait plusieurs jours que je t'attendais. Tu aurais dû venir plus tôt. » Pierre entre, Jean ferme la porte. Et le mène au salon. Où se trouve, étalé à terre, sur les sièges, des bouts de tissu de soie de toutes les couleurs. Dans un coin se trouvent des pinceaux et des tubes de couleurs. Jean lui dit,
J'essaye de trouver des motifs, mais je veux des... pas des japonaiseries ni des chinoiseries, mais quelque chose de moderne, de bien nous, d'occidental. J'enlève un tissu rouge qui tombe à terre pour faire asseoir Pierre. Et lui s'assoit à terre à ses pieds. Pierre voit qu'il n'a rien, ou presque rien, sous son kimono. Il ne sait pas pourquoi, mais cela le trouble. Semble avoir la peau si blanche, si lisse. Il a envie de lui caresser la poitrine. Jean lui dit « Tu ne dis rien ?» Pierre lui répond « Tu as l'air si occupé que moi, je ne fais rien. J'ai bien essayé de travailler, d'écrire, mais rien ne vient. Attends que l'inspiration te vienne. Tiens, tu vas m'aider. » « Oui ?» Tu vas t'habiller avec un kimono et moi je vais essayer de te peindre dessus. » Pierre aux épaules lui dit « Oui ». Il se lève, Jean aussi, et prend un kimono blanc qui est sur une chaise. « Tiens, mets-le. » Pierre s'approche, s'apprête à le mettre. « Mais non, pas comme ça. Tu dois te déshabiller. » Un kimono, ce n'est pas une robe de chambre. Pierre quitte sa veste.
« Non, enlève tout. » Pierre, gêné, se déshabille.
Il reste en caleçon. Jean lui dit « Tu es pas mal du tout. » Il ramasse les vêtements qui sont tombés à terre pour les poser sur une chaise. Pierre met son kimono. Jean lui demande « Tu n'as pas froid ?»« Non, il y a plus chaud chaud. » Jean amène vers lui un pinceau et un peu de peinture rouge. Et il commence à tracer des traits sur le kimono, des traits qui vont de haut en bas. Au début, sentir le pinceau presque sur la peau, ça le gêne. Puis, petit à petit, il sent un bien-être et le pinceau semble devenir le prolongement de la main de Jean. Il voit Jean tout près de lui, il sent son odeur, sa chaleur, la tête penchée, touche presque Pierre. Pierre se sent attiré, il s'abandonne. Jean continue. La pièce est dans le silence complet. C'est comme s'ils étaient en dehors du monde. Pierre s'abandonne de plus en plus. Il a le souffle lent, le corps chaud. Il bande. Jean se relève, lâche son pinceau et prend dans ses bras Pierre. Il le plaque contre lui, l'embrasse sur les lèvres. Pierre s'abandonne. Ils sont tous deux la fièvre. Les mains de Jean touchent la peau sous le kimono. Elles descendent jusqu'aux fesses. Pierre n'a jamais été touché comme ça. Il s'abandonne. Jean se retire, lui enlève le kimono et le sien. Prend Pierre dans ses bras et le fait tomber à terre. Pierre est sous lui. Ils sont plaqués l'un contre l'autre, peau contre peau. Leurs mains se cherchent, palpent, pleutent la peau de l'autre. Jean masse les fesses de Pierre, Pierre celles de Jean. Ils ne savent plus ce qu'ils font, se laissent aller dans leur plaisir. Ils transpirent, bavent à cause de leur baiser. Tout à coup, Pierre lève les yeux et voit le visage de son père. Sensation horrible le prend. Il a l'impression que c'est son père qu'il caresse, qui cherche à le baiser. Cette sensation est tellement horrible que d'un geste des deux bras, il repousse Jean qui tombe à la renverse. Pierre pleure. Jean se relève. Que t'arrive-t-il ? Pierre se reprend et dit « Dis-je pour... Tu n'y es pour rien. C'est moi. Je ne peux pas. C'est impossible. » Jean lui dit « C'est pas grave. Rhabille-toi. »
Pierre se relève pour s'habiller. Tu ne m'en veux pas? Non, je comprends. Non, tu ne comprends pas. Si je ne peux pas, c'est que j'ai l'impression que l'autre me touche. Qui l'autre? Mon père. Ton père. Oui.
Jean le prend par le bras et va asseoir sur un fauteuil. Et lui s'assoit à ses pieds.
Pierre lui dit, mon père me désire et cela me répugne. Jean lui dit, je comprends. Tu dois te libérer de lui, vivre seul. Pierre lui dit, je suis fatigué, je veux rentrer chez moi, comme tu voudras. Ils se promettent de se revoir et de rester amis. Pierre, l'expérience qu'il a eue avec Jean, il y pense constamment. Il désire, c'est d'avoir des rapports amoureux avec un jeune homme comme Jean. Mais il sent que chaque fois, quelque chose qui l'empêche, ne supporte pas qu'on le touche, qu'on le regarde de trop près. Il a l'impression d'être souillé. Il revoit Jean, qui reste tendre avec lui, mais ne cherche pas à le toucher. Pourtant, malgré lui, Pierre se sent attiré par lui. Et certains jours a envie d'être contre lui, mais n'ose pas, il a peur. Le père ne vient plus le voir dans sa chambre et ne lui parle pas, mais Pierre sent qu'il souffre. Malgré lui, à l'heure où le père venait, il se met à l'attendre et à désirer ses caresses malgré qu'elles le dégoûtent. Et malgré lui, il est pris entre le plaisir et le dégoût. Ses sentiments pour son père sont troubles. Cela le fait souffrir, il ne peut se détendre que chez Jean, car le désir qu'il a pour lui est moins trouble. Comme il a hérité ses études, pour se faire un peu d'argent, il travaille comme magasinier chez un libraire, Brasse Bellecour. Cela l'occupe et le sort de la maison. Après son travail, il va un moment voir Jean. Quelquefois, ils passent la soirée ensemble, dînent chez lui ou vont au concert. Un soir, Pierre, pendant le dîner, dit « Tu sais, d'habitude, je porte malheur. On dit que je suis dangereux. » Jean lui dit « Encore des histoires de ton père. » « Non, j'ai de longues pertes de mémoire et je ne sais plus où je suis, ce que je fais. Il paraît que l'on me trouve dans la rue, seul, les vêtements déchirés, avec du sang. Et moi, je ne me souviens de rien. Mon père dit qu'un jour, il faudra m'enfermer. » Je suis fou. De toute façon, j'ai le sang de ma famille, un sang empoisonné. Nous sommes tous fous. Mais si je n'arrive pas à être moi-même, je ne sais pas ce que je vais devenir. Pierre décide d'être lui-même, et puisqu'il est pervers, comme l'on dit, il doit assumer. Il sait qu'il ne pourra pas avoir de rapport avec Jean. Je vais essayer avec des personnes que j'aime pas. Ce sera plus facile. Alors, dehors, il regarde, observe, essaye d'approcher, mais n'y arrive pas. Des fois, rien que le fait de savoir que le jeune va le toucher, cela le répugne et se sauve en courant. Un jour, il est même allé jusqu'à l'hôtel avec l'un. Ils se sont couchés, mis au lit. Mais lorsque les autres a voulu poser la main sur son corps nu, il a résisté, il a senti un dégoût. C'était comme si c'était son père qu'il touchait. Il s'est levé d'un bond. Qu'est-ce qui te prend? Ce n'est rien. Je n'ai pas envie. Et il s'est rhabillé. L'autre lui a dit, tu es un sacré égoïste, toi. Je suis navré. Et il est sorti de l'hôtel en courant, heureux de retrouver l'air libre. Puis au bout de quelque temps, il s'est mis à broyer du noir. Je ne pourrai jamais vivre comme les autres. Je suis incapable d'avoir des rapports physiques avec quiconque.
À chaque fois que quelqu'un me touche, je vois mon père, fumier de père. C'est toi qui m'as tué. Je devrais te tuer. Puisqu'après m'avoir donné la vie, tu m'as tué.
Et les jours passent. Albert est dans sa chambre, assis à son bureau. Il écrit une lettre à sa sœur. Jean se marie demain. Il doit lui écrire. Il lui écrit son amour, tout son amour, comment il l'aime. Son désespoir de l'avoir avec un autre. Il lui dit qu'il l'aimera toujours. Personne ne prendra sa place. Je t'aime comme un fou. Albert a écrit, pleure. Il a fini d'écrire. Il met la lettre dans une enveloppe.
Et il va mettre la lettre sous la porte de la chambre de sa sœur.
Le lendemain matin, Jean se lève. Il est 6 heures. C'est le grand jour. La veille, il y a eu le mariage à la mairie. Aujourd'hui, c'est la grande cérémonie. Elle est très heureuse, car elle aime son Charles-Henri comme si c'était un dieu. En passant devant la porte pour aller à la salle de bain, elle voit à terre la lettre. La prend. Et l'ouvre. Une lettre d'Albert.
Elle va s'asseoir sur le rebord du lit pour la lire.
Ce qu'il lui écrit fait moins d'effet qu'il le devrait. Elle est amoureuse et le reste du monde. Mais elle se dit tout de même, il m'aime et souffre. Je suis sûr que ça va lui passer. Lui aussi trouvera une gentille jeune fille et sera heureux. Aimer sa sœur, c'est pas très sérieux. C'est un jeu d'enfant. Elle remet la lettre dans l'enveloppe et va la poser dans son secrétaire. Puis, dans le tourbillon de la cérémonie, elle l'oublie. D'abord se préparer, mettre la robe, coiffer, chausser. Aller à l'église, le cortège, la cérémonie. Elle ne voit rien, entend à peine. Son frère est dans cette foule, mais elle ne s'en occupe pas. Ils ont dit oui, sont mariés. Elle marche fièrement au bras de son Charles-Henri. Elle est heureuse, si heureuse. Il est tellement beau, beau, prévenant et gentil, tout quoi. Ensuite, il y a eu le repas de noces. Là, elle n'a pas faim. Elle dévore des yeux son Charles-Henri. lui, en face de lui, une cantatrice qu'il a connue et l'a voulu inviter. C'est une grande femme brune avec des seins très en forme. Elle doit avoir dans les 25 ans, habillée d'une robe rouge. Jean la trouve vulgaire et plaint son Charles-Henri qu'il est obligé de lui faire la conversation. Après le repas, qui a paru interminable, ils sont allés se retirer dans la chambre pour se reposer et se changer pour le bal. Elle s'est allongée dans sa chambre, n'a pas pu se reposer ni dormir. Elle pense à cette nuit, à leur première nuit. La mère lui a prévenu qu'elle allait ce qui allait se passer. Elle est inquiète. Elle est vierge et fière de donner sa virginité à l'homme qu'elle aime. Le bal a lieu, un grand bal avec de nombreux invités, un orchestre, des fleurs de partout, des buffets, des serveurs qui vont et viennent. C'est le mariage le plus important de l'année pour Lyon et même le Rhône. Tout le monde a voulu y être. Jeanne a mis une robe blanche avec des fleurs brodées à fil d'or. Elle est très belle. Elle voit toutes ces lumières, cette musique, les gens qui l'entourent pour la féliciter. Elle est très heureuse. Les heures passent. Elle est obligée de danser avec les uns les autres, pas avec son mari. Lui fait la même chose. Elle le voit de loin. Il est souvent avec cette femme, cette cantatrice, cette Hortense. Elle le plaint. Comme il fait chaud dans le salon, elle décide d'aller dans la salle de bain pour se rafraîchir un peu. Elle monte au premier. Les quatre salles de bain du premier ont été ouvertes aux invités. Elle entre dans la salle de bain où l'on a déposé des eaux de colonne, des gants, des serviettes, du coton. Elle s'approche du lavabo, ouvre le robinet, se mouille les mains pour se passer sur le visage. Puis, avec une serviette, elle s'éponge. Juste où elle va quitter la salle de bain, elle trouve à terre une lettre. Sans enveloppe, elle la prend avec, sans l'intention de la lire. Mais elle reconnaît l'écriture de son mari. Elle la lit. Son mari écrit à sa chère Hortense, sa grosse toutoune. Il lui dit son amour, que son mariage ne change rien et que sa mère, que même pour le lui prouver, il s'échappera du bal quelque temps pour faire des câlineries dans une des chambres du haut, qu'elle n'a rien à craindre, que sa femme n'est qu'une petite oie blanche sans importance. Il se marie, c'est pour la dot, pour régler ses dettes, et continue en lui disant à tout de suite. Jean a lu la lettre, le corps battant, les joues en feu. Elle sent sa gorge se serrer, tout s'effondre. La lettre, elle la jette, puis réfléchit, la prend, la remet dans sa poche.
elle retourne au bal. Elle a la tête qui tourne. Tout ça ressemble à une farce, à une horrible farce. Oui, à une horrible farce. Elle voit son mari, et oui, c'est son mari, danser avec cette femme. Elle voit tout tourner, a envie de pleurer. Elle ne veut pas réfléchir pour le moment. Elle va se plaquer contre un mur et regarder les gens danser, parler, rire. C'est un mariage que l'on fête, c'est sa fête. C'est la fin de son amour. Un peu plus loin à l'écart, elle voit qu'il lui aussi est plaqué contre un mur et semble triste à en mourir. Albert, pauvre Albert. Elle repense à sa lettre, une belle lettre, une vraie lettre d'amour, pas comme l'autre. Lui au moins, il aime et souffre. Elle était insouciante avec lui, ne l'a pas pris au sérieux. Elle se souvient de ses phrases écrites. Cela la touche. Elle se dit, et dire que je vais donner ma virginité à ce porc. Ce n'est pas possible. Je ne l'aime plus. C'est Albert que j'aime maintenant. Elle va vers son frère, en essayant de sourire. Il prend la main et lui dit, viens. Il la suit, sans rien dire. Elle le fait monter à sa chambre. On entend d'une façon confuse le bal. Une fois que la porte s'est refermée derrière eux, elle lui dit « J'étais insouciante envers toi, mais ta lettre m'a ouvert les yeux. Je me marie, mais c'est toi que j'aime. » La mère est surpris et tremblant et continue lui dit « Nous avons très peu de temps, je vais te donner un cadeau, pas grand chose, mais c'est ce que j'ai vraiment à moi. Et tu m'aimes, n'est-ce pas ? Oui, je t'aime. Alors, elle quitte sa robe de mariée qui glisse à terre. S'allonge sur le lit, lui tremblant, tout excité, s'approche et s'allonge près d'elle. Elle pose sa tête sur sa poitrine, lui caresse ses cheveux et lui dit « Toi tu m'aimes, je le sais, moi aussi je t'aime, les autres ne comptent plus, embrasse-moi, caresse-moi. » Il est intimidé. Il l'embrasse sur les joues, puis, avec plus de fougue, sur les lèvres. Il s'allonge sur elle, la touche, les seins, les jambes. Ils sont pris dans un tourbillon de gestes, de baisers. Elle a perdu sa virginité, le sourire aux lèvres. Parce qu'il l'a fait avec l'être qu'elle aimait le plus. Il a nettoyé son sang avec son mouchoir, se sont enlacés un moment, unis, heureux. Elle lui dit, il me faut partir maintenant. Il lui dit, pourquoi rester ensemble puisque nous nous aimons? Elle lui dit, je jure que c'est toi que j'aime le plus au monde. Tu as été le premier et aucun homme ne me touchera. Je te le jure. Alors pourquoi partir? Pourquoi ton mari? Mon mari, je ne l'aime plus. Je vais partir avec lui parce que je ne veux pas faire autrement à cause de ma famille. Mais c'est toi. C'est toi. C'est toi que j'aime. Ma famille est responsable de ce qui se passe. Je veux partir, il le faut. Toutes mes pensées sont pour toi. Toutes mes pensées sont pour toi. Toutes. Elle l'embrasse sur les lèvres et lui dit « Nous devons nous lever. » Il lui dit « Et rejoindre les autres ?» Elle lui dit « Après ce qui s'est passé, il serait impossible de vivre. » Elle lui dit « Tu verras pour nous. Tu vivras pour nous. Allons debout. Il se fait tard. Ne crains pas les ennuis. » Ils se lèvent tous deux. Demi-heure plus tard, se retrouvaient le bal. Elle dit à son frère, « Je veux danser avec toi jusqu'à ce qu'on m'appelle. » Et ils ont dansé. Il lui dit en dansant, « J'aimerais toujours être près de toi. » Elle lui dit, « Malheureusement, c'est impossible. » Elle voit son mari s'approcher d'elle. Elle dit à Albert, « Ne t'en fais pas. Je t'ai prouvé que je t'aimais. » Le mari lui dit, « Il est temps de partir. Embrasse ton frère et nous partons. » Albert se laisse embrasser et la voit s'éloigner avec son mari. Il court à la fenêtre. Il voit rentrer dans le fiacre et le fiacre partir. Il ne sait plus où il est. Doit-il être heureux? Doit-il être malheureux? Que va-t-il faire sans elle? Se sent incapable de vivre sans elle. John est emmenée par son mari en Italie. Dans la calèche, elle se recroqueville et ne veut aucun contact avec son mari qu'elle déteste. Après une heure de fiacre, ils se sont arrêtés dans une auberge hôtel. Avant de prendre le train, ils vont dormir et mettre des affaires de voyage. Une fois que la porte de la chambre s'est refermée sur eux, elle lui dit « Je suis épuisée. Je vais dormir un peu. C'est normal, mon ami. Après une journée pareille, je vous laisse vous reposer. » Et il sort de la chambre pour aller dans la sienne. Jean est calme, très calme. Elle enlève sa robe de bal, va à la table de toilette se laver le visage, les mains, et se donner un bon coup de peigne. Puis elle va s'allonger. Une heure après, calmement, elle se lève, s'habille d'une robe d'été rouge, rose, et réfléchit jusqu'au lendemain matin, allongée sur son lit. Au lever du jour,
entrez. C'est la bonne pour le petit déjeuner.
Vous êtes déjà prête, madame? Oui, et mon mari se prépare dans sa chambre.
Elle prend calmement son petit déjeuner.
Une heure plus tard, ils sont dans un compartiment de première classe. Elle a mis un manteau de voyage beige par-dessus sa robe. Son mari lit le journal. Le matin, il est peu causant. Et tout juste, il lui a dit bonjour. Elle ne s'en est même pas aperçue. Elle semble regarder calmement le voyage. Son visage est d'une fraîcheur de petite fille. Elle se lève et dit à son mari, « Je reviens. » Sort du compartiment.
Dans le couloir, elle touche la lettre de son mari. Elle l'a mise dans une enveloppe avec l'adresse de ses parents. Elle voit un contrôleur dans le couloir et lui dit « Pouvez-vous me rendre un service ? Me porter cette lettre, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, madame. » Elle le lui donne avec deux pièces. « Merci, monsieur. » Elle s'éloigne. Le contrôleur aussi va en sens inverse. Elle se met à une fenêtre, regarde le paysage défiler, des champs, des arbres. Elle en a le vertige. Tend la main et touche la poignée de la porte extérieure. Elle donne un coup sec de toutes ses forces pour essayer d'ouvrir. Elle s'ouvre. Elle saute. Sa tête s'est cognée contre les rails. Le choc a été rapide. Elle n'a pas dû souffrir. La famille apprend avec stupeur et épouvante le drame. Ils sont tous effondrés. Albert se tait. Il ne rit plus. Il ne vit plus. Jeanne morte. Elle lui a dit qu'elle l'aimait et s'est donnée à lui, puis morte. Officiellement, on a dit à la famille que c'était un horrible accident. Mais Albert sait que c'est un suicide. Une semaine après l'annonce du drame, la famille reçoit la lettre. C'est Jules qui la lit dans son bureau. Et là, il comprend tout. Il court vers sa femme, qui est dans sa chambre, et lui dit « Notre fille s'est suicidée à cause de la conduite de son mari. Notre fille s'est suicidée à cause de la conduite de son mari. Que dis-tu là, mon ami ? Lisez. » Il lui prend la lettre, elle la lit. La mère est effondrée. Il dit « Faut venger notre fille. Je vais aller lui dire deux mots à ce fumier. » Elle lui dit « Tu vas pas te battre avec lui ? Tu ne crois pas que la police, la justice ?»« Non, il a tué ma fille. Il doit payer. » En ce moment, il est chez lui à Lyon, sans doute avec sa maîtresse. Elle lui dit « Je t'en prie, nous avons assez de malheur comme ça. » Il lui prend la lettre et va à la chambre en courant. Et sort de la maison, prend un fiacre. Jean-Larry habite en banlieue lyonnaise, dans une petite maison moderne avec jardin. Lorsque le fiacre mène Jules devant la maison, il voit avec stupeur que la maison est en flammes et qu'il y a les pompiers. Jules demande à un pompier « Que s'est-il passé ?» Les voisins ont vu une personne casser un carreau, entrer dans la maison, puis y ressortir un quart d'heure plus tard. La maison a pris feu tout de suite. On l'a retrouvé attaché sur son lit le propriétaire. Il est mort calciné. On n'a rien pu faire. Le feu était mis sur le lit. Comment le savez-vous ? Par le bidon d'huile renversé sur le lit. Quelle horreur! Lorsque Jules s'en retourne, rentre chez lui, il va raconter à sa femme ce que lui a dit le pompier. Tu vois, Dieu nous a fait justice sans que nous ayons à nous en occuper. Jules lui dit, cette lettre je la garde. Et il sort de la chambre. Thank you. Albert, après avoir eu brûlé Charles-Henri et mis le feu à la maison, il est parti en courant se cacher dans les bois. Il ne regrette rien. Il a ce qu'il mérite, ce salaud. Et si sa salope avait été avec lui, ça aurait été encore mieux. Il est entré dans la maison en brisant la vitre d'une fenêtre du rez-de-chaussée qui n'avait pas de volet. Il est tombé dans la cuisine. Il voulait lui faire la peau. Cherche un couteau. Tombe sur une bouteille d'huile et des allumettes. Voilà ma vengeance. Il ramasse une corde et monte à l'étage. C'est toujours à l'étage que les maîtres ont leur chambre. Ouvre toutes les portes. Enfin, il est là, dans son lit. Qui dort, ce cochon? Vite, Albert se penche sur lui. Ce qui le réveille, il le plaque de son corps et d'une main, il l'attache au rebord en bois du lit. L'homme crie, essaie de se défendre. Il a peur aussi, car il ne voit pas son agresseur. Au secours, au secours! Tu peux toujours crier, fumier. Personne ne peut t'entendre. Et une fois qu'il est bien ligoté avec la corde, c'est fou ce que la colère peut donner des forces. En temps normal, il n'aurait jamais pu paralyser Charles-Henri. Il renverse l'huile sur Charles-Henri qui brûle, qui hurle de terreur et allume une allumette qui jette sur lui. Le corps s'enflamme d'un coup et le lit. Vite, Albert, court sortir de la maison qui va s'enflammer, très vite. Il se cogne, sort de la maison juste au moment où le feu prend les escaliers de bois. Court, quitte le jardin et va se cacher dans les bois. Essoufflé, il s'arrête un moment, voir la maison en flammes. Tu es vengé, Jean, tu es vengé. Puis... Il est triste et pleure Jeanne. Ce qu'il a fait, il n'y pense plus. Il fait très nuit. Il avance au hasard dans la forêt. Il se sent vide, vide. Il se demande ce qu'il va faire. Je suis seul, sans avenir. Jeanne, pourquoi m'as-tu laissé seul? Il a envie de mourir. À quoi bon vivre? Il pleure, tremble, a un peu froid. Je suis seul, tout seul. Marche en titubant la tête vide. Pensez à quoi? Descends en fourré et tombe par hasard sur un chemin de gravier. En le suivant, il tombe sur des tiges de ferraille tenues à terre. Il fait trop noir pour voir mais comprend que ce sont des rails. Alors il se dit, le destin m'a mené ici. C'est là qu'il doit s'accomplir. Il marche sur les rails. Il marche. Comme ça, en se tenant l'équilibre dessus. Il fait très noir, ne voit rien. Mais sent, sous les sommeils, ses chaussures. Les rails. Marche comme ça, peut-être pendant une heure, il ne sait pas. Il entend un bruit qui fait de plus en plus vibrer les rails. Il continue à marcher. Il voit au loin deux grosses lunes blanches. Et ce bruit et les vibrations qui sont de plus en plus fortes. Il pense une seconde à se retirer. Mais il continue. Les rails vibrent de plus en plus fort sous ses chaussures. Le bruit augmente et devient de plus en plus fort, assourdissant. Les lumières se rapprochent de plus en plus, deviennent énormes, avec le bruit, les vibrations. Albert ne voit plus s'il avance. Les lumières avancent, se rapprochent. Le bruit devient sourd. La lumière l'éblouit. Il a été renversé, le visage a été braillé, défiguré. De ses mains relevées, en dehors des rails, à des doigts qui bougent un peu, puis plus rien. Le silence. Comme il n'avait pas de papier, on n'a jamais su qui était ce jeune homme. La famille Beaumandin pense qu'Albert est parti à l'aventure et qu'il reviendra. Dans la famille, on a pris l'habitude des fugues de jeunesse. Le temps passe. Pierre se sent mal dans sa peau avec ses désirs pervers. Il n'arrive pas à les accepter parce que pour extérioriser ses désirs, il doit aller dans des rues, des lieux où se trouvent ce genre de personnes qui ont le même goût que lui. Mais malheureusement, ces lieux et les personnes qu'il y voit le dégoûtent et se dégoûtent. Le père ne va plus le voir. Il a compris que son fils le rejetait et il était dégoûté de lui. Mais Pierre, malgré lui, l'attend toujours à la même heure. Dans sa chambre, il ne sait pas pourquoi, peut-être que malgré lui, les caresses de son père lui manquent. Pierre va une fois par semaine passer la soirée chez Jean, et c'est sa seule vraie distraction. Ils sont devenus amis, mais n'ont pas recommencé leurs choses, parce que Jean a de l'estime pour Pierre, et il ne veut pas lui faire de la peine. Ils parlent, peinture, musique, font la dinette. Jean lui raconte les troubles qu'il a en voyant certains garçons. Pierre lui dit « Moi, je n'y arrive pas. » Jean lui dit « C'est parce que tu vas dans des endroits, tu devrais chercher ailleurs. » « Mais où ?» Jean hausse les épaules. « Et moi alors ?» Pierre sourit, lui dit « Toi, tu es mon ami, je ne veux pas te faire de mal. »« Du mal ? Mais comment tu me ferais du mal ?» Pierre hausse les épaules. « De toute façon, il y a mon père entre nous. Je le sens toujours près de moi. Lorsqu'on me touche, ça me glace. » Jean lui demande. « Il te touche toujours ?»« Non, il ne va plus dans ma chambre, mais je le sens encore. J'ai l'impression que je suis maudit, que je suis perdu, que jamais je ne serai heureux. D'ailleurs, toute ma famille est comme ça. » Jean lui donne un baiser sur la joue. « Maudit ou pas, je t'aime. » Pierre n'arrive pas à écrire, ses pensées sont trop sombres. Alors il ne fait rien, ou dessine sur des feuilles blanches à l'encre de Chine des choses abstraites, sombres, noires. Des dessins géométriques qui deviennent de plus en plus compliqués et ne ressemblent à rien. Des visages qui s'assombrissent de plus en plus, des maisons, des arbres, tout est sombre, touffu et cauchemardesque. Marche beaucoup l'après-midi, va vers les quais de Saône et cherche des visages, des corps. Il sait qu'à certains endroits, pour un peu d'argent, tous ces jeunes gens, au corps amolli, le dos au mur, le regard vague, il sait que ces gens le regardent passer, mais lui fait celui qui ne les voit pas. Radio Canu vous a présenté dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation,
dont c'était la 43e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP Cinéma Vidéo Radio Production vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.